7h40 sur France Culture, les invités de vos matins d'été. Une écologie du quotidien avec nos déchets à l'honneur hier du Conseil des ministres. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, y a présenté son projet de loi sur l'économie circulaire et détaillé son dispositif de la réduction des déchets à leur collecte, consigne, traitement ou valorisation. Nos invités ce matin, le sociologue et anthropologue Baptiste Mont-Saint-Jean, chercheur et maître de conférence à l'Université de Reims, auteur de Homo Detritus, une critique de la société du déchet, et l'ingénieur Philippe Biwix, auteur de Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, un essai qui avait été précédé il y a 4 ans de L'âge des low-tech. Tous deux publiés au Seuil dans la précieuse collection Anthropocène. Bonjour messieurs, bonjour Philippe Biwix.
Bonjour.
Et bonjour à distance, à vous Baptiste Mont-Saint-Jean, puisque vous êtes avec nous en duplex, bonjour.
Bonjour.
Loi sur l'économie circulaire. Voilà, ça y est, le projet a été présenté hier en Conseil des ministres. Philippe Biwix, est-ce qu'on entre pour vous dans un nouveau cycle avec la première initiative vraiment écologique de ce gouvernement?
Je pense qu'il ne faut pas forcément bouder son plaisir. Les critiques ont commencé à fuser à peu près aussi rapidement que la communication gouvernementale. Effectivement, on pourrait considérer que c'est le premier signe d'une prise de conscience peut-être un peu tardive du fait qu'on a un problème de consommation de ressources et de génération de déchets. Alors il a fallu attendre quelques belles envolées scientifiques. Il pleut du plastique au fin fond des Pyrénées, 365 particules par mètre carré et par jour. Les océans, évidemment, commencent à contenir de plus en plus de macro et de microplastiques, au point qu'on pense qu'en dans quelques décennies, il y en aura plus que du poisson. Bon, donc il y a cette volonté d'agir. Maintenant, la question, tout va être dans la question des modalités.
Alors on va revenir un peu sur le dispositif qui a été mis en place ensemble, juste Baptiste Mont-Saint-Jean, sur cette loi qui arrive donc en ouverture de l'acte 2 du quinquennat. Est-ce que, de ce que vous avez pu en voir ou en lire, c'est un simple recyclage de vieilles idées ou un véritable changement de paradigme? Est-ce qu'on est en train de passer enfin du produire consommer jeté au produire consommer recyclé? Est-ce que c'est une bonne chose?
Je rejoins complètement Philippe Biwix. La réalité, c'est que ce texte, on ne l'a pas pu le lire. Il a simplement été présenté hier en Conseil des ministres. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'on est face à un projet de loi qui est plus orienté vers la question du recyclage que la question de la réduction des déchets, pour le dire simplement.
Et ça, c'est une grande différence. C'est important.
Bah, c'est fondamental.
C'est pas très audacieux. Bah, dites-nous en quoi?
La question, c'est est-ce que cette loi est à la hauteur de l'urgence écologique en cours? Est-ce que le recyclage qui est mis en œuvre depuis une quarantaine d'années en Europe et dans les pays du Nord a fait ses preuves en matière de réduction de déchets? La réponse est non. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à une autre forme de régulation et de réglementation à la fois du secteur industriel mais aussi des politiques publiques? Certainement oui.
Philippe Biwix, peut-être pas aussi ambitieux ou audacieux cette loi que l'espérait Baptiste Mont-Saint-Jean. Pour l'instant, on voit qu'il y a quand même, dans les mesures qui ont été annoncées, même si vous n'avez pas pu lire l'intégralité du projet de loi, il y a quand même des mesures qui pensent cette question des déchets en amont et en aval, qui suivent tout le cycle, le cycle du déchet.
Oui, alors il y a des idées sur effectivement la question de la réintégration d'un certain nombre de matières recyclées, par exemple des obligations qui seraient données aux industriels. Alors il faut quand même faire très attention sur les aspects techniques avant même de parler de modalités pratiques ou fiscales ou réglementaires. Bon, d'abord il y a des effets d'annonce. On aime bien les chiffres ronds, évidemment. Donc 2025, 100% de plastique, objectif 100% de plastique recyclé. Bon, il faut savoir d'abord que tous les plastiques ne se recyclent pas. Je vais juste prendre un exemple stupide. Les usages médicaux, les usages hospitaliers, on va pas recycler les poches de sang ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui continueront à être incinérées, évidemment. Alors après, si on parle effectivement de plastique d'emballage, on peut essayer de se fixer cet objectif, mais là aussi il faut savoir que pour des questions de mélange, pour des questions d'additifs, pour des questions de pureté, pour des questions de dégradation aussi de ces molécules, de ces polymères qui à force de les réchauffer, pour les refondre, pour les recycler, vont se dégrader, fait qu'on n'arrive pas forcément à réintégrer et à reboucler ce cycle de l'économie circulaire. On arrive à intégrer, par exemple, jusqu'à 10, 15, 20% peut-être de plastique recyclé dans des nouvelles bouteilles, mais on a beaucoup de mal à faire des plastiques qui sont issus de 100%, enfin des bouteilles qui sont issues de 100% de plastique recyclable.
Voilà, donc ce concept du 100% recyclable, il est aussi trompeur, celui du zéro déchet, c'est un faux combat ou...
Non, pas du tout. Alors justement, je rebondis sur ce que disait Baptiste, c'est que ce qui est un petit peu gênant dans le recyclage, enfin ce qui est gênant, c'est effectivement de limiter déjà le concept d'économie circulaire, principalement à la question du recyclage et au rebouclage des cycles. C'est-à-dire que quand vous regardez la définition la plus officielle qu'on peut, la plus complète qu'on peut trouver de l'économie circulaire, qu'on trouve par exemple à l'ADEME, on a toute la question de la sobriété en amont, de la frugalité, de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire d'être dans la logique de l'utilisation commune, du partage, du non-jetable, etc. Et donc là, on a l'impression qu'effectivement, ce projet de loi va se précipiter plutôt sur la question du recyclage et avec un côté dangereux qui est de dire bah, finalement, puisque c'est recyclé, tout va bien, d'un point de vue environnemental, je suis dédouané et donc je peux continuer à consommer autant que je veux. Et on va éviter de se poser une question qui est, mais finalement, à quoi sert l'eau en bouteille ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt réutiliser et voilà, réembouteiller comme on le faisait avant.
Et ça, c'est aussi la remise au goût du jour de la question de la consigne. Il y a ce volet recyclage, mais aussi le volet anti-gaspillage. On va écouter la secrétaire d'État Brune Poirson présenter hier son projet de loi.
Dans le projet de loi anti-gaspillage, on va aller encore plus loin en mettant en place un système pour aller récupérer ce plastique-là avant qu'il finisse dans l'environnement, en obligeant aussi, ou en encourageant en tout cas les entreprises à intégrer plus de matières plastiques recyclées dans les produits qu'elles commercialise, en luttant aussi contre le suremballage par le biais d'un système de bonus-malus.
Baptiste Mont-Saint-Jean, on peut peut-être effectivement commencer à aborder directement certaines de ces mesures, et notamment cette histoire de bonus-malus. Il y a un mot qu'on a beaucoup entendu lors des catastrophes environnementales, celui du pollueur-payeur. Comment établir ce principe, cette responsabilité écologique du côté des producteurs?
Alors, en fait, c'est une vieille recette. L'OCDE a adopté le principe pollueur-payeur qu'on appelle la taxe Pigou aussi dans les années 70, en 72 exactement. Et puis en France, on a mis en place des REP, des filières de responsabilité élargie des producteurs. Il s'avère que ces filières, ce sont des administrations en fait qui gèrent, qui sont censées gérer et financer les filières de recyclage et de traitement des déchets en fonction du type de déchets en jeu. Il y a des filières pour les emballages, des filières pour les produits toxiques liés au jardinage par exemple. Et puis là, on nous parle de futurs REP pour les articles de bricolage, pour
le bâtiment, pour tout le secteur du bâtiment aussi.
Alors, il y a une petite particularité dans l'organisation de ces REP, c'est que le conseil d'administration de ces filières, ce sont les industriels qui financent la REP. Et donc, ce sont les producteurs qui sont à la fois les payeurs, mais aussi les décideurs. Et c'est donc eux qui font la propre orientation des politiques liées à la gestion des déchets qu'ils produisent. Ce qui peut sembler très bien sur le papier, mais si on réfléchit là encore en termes de réduction de déchets. Si je suis un industriel de la bouteille en plastique, par exemple, j'ai aucun intérêt à ce que mes bouteilles en plastique demain soient moins vendues. Et donc, je ne vais pas mettre en place de politique ou de formule permettant de réduire à la source, au moment de la production même, la production de ces bouteilles en plastique. Donc, ce principe du pollueur-payeur, cette taxe Pigou, il a été démontré beaucoup de fois qu'il y a des effets pervers, il y a des formes de logique fermées qui sont liées à la façon dont on attribue, en un sens, aux pollueurs la capacité de décider la façon dont la politique publique va s'orienter en matière de déchets. Une toute petite parenthèse sur la question de la consigne, puisqu'il y a aussi quelque chose d'assez amusant dans l'expression publique autour de cette consigne. Il s'agit moins d'une consigne de réemployer des contenants une fois l'utilisation effectuée, mais bien de continuer à jeter des bouteilles en plastique et simplement de recevoir en retour une caution, un petit quelques centimes, pour rembourser le prix de l'emballage qui a été loué le temps de son usage. Mais il ne s'agit en rien de remettre en question cette logique de mise au rebut et de recyclage.
Mais ce n'est pas le retour de la bouteille en verre.
Non, loin de là.
Obligatoirement. Sur cette question du pollueur, du principe du pollueur-payeur, il y a des effets pervers, vous les évoquez, Baptiste Mont-Saint-Jean, probablement, mais il y a aussi une réalité que souligne la secrétaire d'État jusqu'ici, c'est que des pans entiers de notre économie ne prenaient pas en charge le traitement de leurs déchets. Et que du coup, le poids de cette prise en charge était supporté par l'impôt, par les collectivités locales ou territoriales. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une prise de conscience et un retour à l'envoyeur de sa responsabilité en termes de production, Philippe Biwix?
Je crois que le principe du pollueur-payeur, c'est quelque chose qui... semble-t-il, et dans le sens de l'histoire, et on ira de plus en plus vers la prise en compte des externalités, hein, comme le disent les économistes environnementales. Alors, moi, je ne confondrais pas le mécanisme de pollueur-payeur avec ces filières de responsabilité élargie des producteurs, parce que finalement, quand aujourd'hui vous achetez un ordinateur à quelques centaines d'euros et que vous allez payer une éco-participation de l'ordre de 1 euro ou de quelques dizaines de centimes d'euros, puisque c'est à peu près ce montant-là, qui peut croire, dans ce 21e siècle avancé, que le coût environnemental de la production d'un ordinateur, de l'ensemble des métaux rares qu'il va contenir, de toute l'énergie qu'il va falloir y mettre, de toute la pollution qui va être générée en aval par la gestion des déchets électroniques, qui peut croire que le coût environnemental est de l'ordre de 1 euro. C'est évidemment beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la portion congrue qui est prélevée sur ces filières REP et qui permet effectivement de soutenir des mises en place de collecte ou de filières, mais qui n'illustre pas du tout le réel coût environnemental et la consommation de ressources que nous faisons. Soit des ressources non renouvelables de type métallique, soit des ressources fossiles, comme dans le cas des plastiques qui sont issus de la pétrochimie ou de la chimie du gaz. Donc voilà. Donc je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre aller beaucoup plus loin. Alors effectivement, je relève ainsi que Baptiste le glissement sémantique sur la notion de consigne, parce que moi c'est effectivement quelque chose que j'appelais de mes voeux déjà il y a quelques années dans la Gélothèque. Moi je milite pour le retour d'une bouteille consignée et une bouteille consignée universelle. Parce qu'effectivement, le problème de la bouteille en verre consignée, c'est que si vous lui faites traverser la France après l'avoir récupérée, eh bien, il y a un problème de bilan environnemental qui est pas forcément si formidable par rapport à la casser et puis à recycler le verre. Alors que si vous imaginez une bouteille qui serait à peu près la même pour mettre du lait, de l'huile, du jus d'orange ou tout autre contenant, eh bien, vous pourriez laver et réembouteiller beaucoup plus proche des territoires et des consommations. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors c'est pas possible. On va pas mettre le Coca dans la même bouteille que le Perrier.
Mais alors, oui, aberration. Philippe, c'est impossible. On va
une aberration
mettre le Coca
marketing. Et la réponse est non.
Dans la même bouteille que le Perrier.
Et la réponse est non. Parce que dans le Bordelais, par exemple, vous allez avoir toute la différence de marketing. Elle se fait sur l'étiquette. Elle se fait pas sur la forme du contenant. Donc, c'est absolument possible.
Ce qui est intéressant, quand même, c'est aussi les oppositions, les levées de boucliers qu'on peut voir, et pas forcément là où on les attendrait. Si on prend cette histoire du plastique, de cette guerre qui serait aujourd'hui déclarée au plastique, le retour de la consigne, il avait été annoncé par Édouard Philippe d'abord pour les canettes et les bouteilles en plastique. Aujourd'hui, Brune Poirson, la secrétaire d'État, donne des chiffres. Hein, 26% du plastique produit est recyclé en France. Elle indique également que les déchets plastiques ou les mégots de cigarettes sont les premiers déchets qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, il faut agir. Mais on voit aussi que la consigne, pour les collectivités territoriales, c'est moins de déchets dans les fameuses poubelles jaunes. Et donc, un manque à gagner pour ces collectivités qui demandent à repenser le système autrement.
Bah, le problème, c'est qu'effectivement, on a des collectivités et des acteurs territoriaux qui sont vent debout puisqu'ils ont fait des investissements.
Bah voilà, qui préféraient la collecte à la consigne.
Avec des logiques de tri très très high-tech et très dispendieux. Donc effectivement, maintenant, il faut rentrer ces volumes pour effectivement justifier ces investissements. Alors il y a le même effet pervers. On pourrait dire que quand vous installez un incinérateur et puis que en même temps on essaye de réduire les déchets à la source, si l'incinérateur ne mange pas toute la quantité qui a été prévue, c'est pas bien pour l'investissement qui avait été prévu et l'électricité qu'il va produire. Alors, ce qui se passe derrière ça, me semble-t-il, c'est pour ça que les modalités vont être extrêmement importantes. Et je suis content d'entendre qu'a priori, il va quand même y avoir des tables rondes. Alors évidemment, les industriels vont se faire un peu tirer l'oreille, ils vont pas être contents. Mais la question, par exemple, si effectivement il y a consigne sur les bouteilles plastiques, à nouveau je conteste un peu cette sémantique, mais c'est trop tard maintenant, c'est parti. La question c'est qui collecte cette consigne, donc a priori plutôt l'industriel qui vend, et qui garde cette consigne si la bouteille n'est pas ramenée, parce que ça c'est potentiellement une manne économique aussi, hein, parce que imaginez que 90% des bouteilles finissent par revenir, formidable, mais il y a toujours 10% des bouteilles consignées qui vont être conservées. Alors ces 10% de consigne cette petite taxe quelque part payée par le consommateur qui n'aura pas su ramener sa bouteille. Est-ce qu'elle va aller aux collectivités territoriales? Est-ce qu'elle va être gardée par l'industriel? Enfin, il y a plein de questions derrière qui sont des questions de très très économiques et de
voilà, parce que c'est un enjeu aujourd'hui. Il y a le bilan carbone, l'empreinte écologique, mais il y a aussi le bilan économique et la question de savoir en termes d'emploi, est-ce qu'on va s'y retrouver demain avec peut-être aussi la création de nouvelles éco-activités et quel va être donc le ratio entre pertes et acquis dans ce champ-là. Du côté du consommateur, Baptiste Mont-Saint-Jean, la secrétaire d'État parle d'un big bang dans la poubelle des Français. Donc on comprend que les particuliers, les ménages vont une fois encore être aussi invités à prendre leur part, à participer dans cette lutte contre le gaspillage. Ça va des équipements électroniques, électriques jusqu'aux meubles. Le gouvernement parle aujourd'hui de la mise en place d'un indice de réparabilité, mais aussi d'un logo qui inviterait ou non au tri du produit. Est-ce que vous pensez que là, on est dans une logique de responsabilisation ou de culpabilisation du consommateur?
Est-ce qu'il ne s'agit pas un peu de la même chose? Responsabilisation et culpabilisation. J'entends que, en termes de politique publique à l'endroit des usages et des pratiques du déchet, depuis une trentaine d'années là encore, la tendance forte, c'est cette forme de responsabilisation, pour l'appeler comme telle, mais qui confine à une forme de culpabilisation quand la question du geste, la bonne pratique de gestion des déchets est mise en perspective avec la question de la préservation de l'environnement ou même du sauvetage de la planète. Si je jette bien dans la bonne poubelle, alors je sauve la planète. Si je ne le fais pas, ça veut dire que c'est pas bien. Donc c'est une forme de moralisation du geste, de l'action. Et je pense que là encore, les quelques bonnes idées qui sont dans cette loi, hein, et bien sûr qu'il y en a, l'indice de réparabilité, même cette logique de rémunération, hein, en termes de retour de l'emballage, sont des éléments intéressants, mais qui vont dans le sens de cette responsabilisation individuelle. Peut-être une façon de mettre au premier plan cette question des petits gestes, pour faire passer au second plan, la question des grands choix, la question des choix stratégiques, des choix politiques, des choix économiques, qui sont probablement beaucoup plus lourds et difficiles à gérer. Pour reprendre cette histoire de consignes, quels sont les déchets qui ont été visés par cette possibilité d'une rémunération, donc d'une consigne du jetable? Ce sont les matériaux, les emballages qui sont aujourd'hui les plus rentables sur le marché du recyclage. Les canettes, les bouteilles de plastique en PET. Et de fait, ce sont a priori des industriels de la boisson qui vont aujourd'hui tirer profit de cette forme de court-circuitage, hein, de ce gisement de déchets qui arrivait jusqu'ici dans les collectivités, alors qui était parfois géré par des délégations de services publics, par des grands groupes, là encore, mais qui pouvait bénéficier aux usagers. Qui va financer aujourd'hui le système de consigne? Probablement, là encore, l'impôt.
Ce que vous dites, Baptiste Mont-Saint-Jean, aussi, et ce qui est au cœur de votre essai, l'homo détritus, critique de la société du déchet, c'est qu'aujourd'hui, dans cette philosophie du bien jeté qu'on essaye de partager au cœur de nos sociétés, tous ces gestes éco-citoyens, comme d'ailleurs l'économie circulaire du recyclage industriel, montrent assurément des limites. Mais quelle est la contradiction, en fait, pour vous, de cette logique?
Peut-être qu'il y a une croyance qui se situe derrière ça, et qui est ancienne, qu'on trouvait déjà avec l'expression développement durable. L'idée, c'est celle que le Club de Rome a déjà évoquée depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut décemment penser une croissance économique infinie dans un monde aux ressources matérielles finies? Je pense que Philippe sera pour le coup d'accord avec moi pour dire que c'est en un sens cette promesse d'une décorrélation entre une économie de marché qui continuerait à croître indéfiniment et l'épuisement dans les ressources et les pollutions des environnements. Cette promesse, elle est perpétuée d'une part, alors depuis le développement durable évidemment, mais aujourd'hui l'économie circulaire a un peu pris le relais de cette promesse. Et peut-être que les pratiques quotidiennes, ces rituels quotidiens, alors ça va de fermer la lumière quand on sort d'une pièce, de couper le robinet quand on se lave les dents, voire de trier ses déchets, toutes ces bonnes pratiques sont des rituels, en un sens qui permettraient de justifier un mode de vie, une forme de consommation quotidienne, de croire, en un sens, à cette promesse d'une décorrélation. Or, jusqu'ici, malheureusement, on n'a pas pu décorréler ces deux courbes.
Philippe Biwix.
Oui, alors les économistes parlent de découplage, hein, donc on arrive à faire ce qu'on appelle un découplage relatif. Donc on a la courbe de PIB qui grimpe un petit peu plus vite que la courbe des émissions de CO2 ou la courbe de la consommation de ressources ou la courbe de consommation d'énergie primaire. Donc il y a un découplage relatif. une grimpe un petit peu plus vite que l'autre. Par contre, on n'arrive pas à faire ce qu'il faudra faire d'une manière ou d'une autre si on veut ne pas sortir d'une zone de confort climatique, si je puis dire. C'est de faire monter une courbe tout en faisant baisser l'autre. Et ça n'a été montré nulle part. Ce découplage absolu, on ne sait pas faire aujourd'hui. Alors, on fantasme effectivement sur la dématérialisation de l'économie, on fantasme sur l'économie des services, sur un monde post-industriel, mais non, on vit dans une société hyper-industrielle. Peut-être ça se voit un petit peu moins chez nous, parce que les usines sont mieux cachées ou ont été délocalisées un petit peu partout. Mais quand on réintègre le bilan des imports-exports au niveau d'un pays comme la France, les émissions de CO2 et la consommation de ressources et d'énergie par personne augmentent.
Alors vous savez faire, Philippe Biwix, en tout cas vous y avez réfléchi, et vous aussi Baptiste Mont-Saint-Jean. On va revenir sur les pistes à envisager après le journal de 8h.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Il y a un marché du déchet dans lequel s'inscrit la future loi sur l'économie circulaire présentée hier en Conseil des ministres, qui entend réparer plus que réduire, nous disaient nos invités, le sociologue et anthropologue Baptiste Mont-Saint-Jean, avec nous en duplex de France Bleu Champagne, et l'ingénieur Philippe Biwix avec moi ici en studio. Mais il y a aussi une géopolitique du déchet. Et pour comprendre comment la France se situe sur cette planète du détritus, on va essayer de faire un rapide tour d'horizon avec vous. Alors, qui sont aujourd'hui les plus gros pollueurs de la planète? À qui revient-il de faire un effort? En quelques mots, Philippe Biwix, pour comprendre cette géopolitique.
Les plus gros pollueurs sont évidemment les pays occidentaux ou dits développés. Je ne sais pas si on utilise encore cette sémantique au sens large, mais ils sont rejoints aujourd'hui évidemment par les grandes puissances émergentes que peuvent être la Chine, la Malaisie, le Brésil, etc. Alors, la différence, sans doute, c'est qu'on est passé à un stade, sans doute, de collecte un peu plus important, qui fait qu'effectivement, on est sans doute plus envahi dans la nature par les sacs plastiques au Maroc ou en Thaïlande que chez nous. Mais en réalité, tous ces déchets, que ce soit des déchets métalliques, des déchets électroniques, des déchets plastiques, sillonnent la planète. Mmh. Et on l'a vu d'ailleurs relativement récemment, puisque la Chine a fortement réduit et ces imports de déchets, souhaitant elle-même en fait créer et soutenir une filière locale. Et donc il y a des difficultés aussi, et on s'est rendu compte que finalement notre bouteille recyclée voyageait sur quelques dizaines de milliers de kilomètres.
On a vu aussi des pays comme la Chine, l'Indonésie, la Malaisie réagir et refuser de continuer à être la poubelle du monde, la poubelle des pays occidentaux qui sous-traitaient leurs déchets. On va écouter l'exemple de l'Indonésie tout de suite, et c'est un sujet de France 24.
Il y a des bouteilles de liquide huileux, par exemple, dont l'odeur est forte. Il y a des indications que ce sont des déchets dangereux. Et quand nous les avons ouverts, certains conteneurs sentaient très mauvais.
Ce qu'on sait, c'est qu'au début, ce sont des déchets qui sont triés par les gens, qui sont mis de côté dans les centres de tri, et comme ils ne présentent pas des qualités suffisantes, ils prennent d'autres chemins. Ce qu'on connaît aussi, c'est le bout, c'est-à-dire l'arrivée dans ces pays-là et tous les méfaits que cela cause. Par contre, quand on demande aux industriels ce qui se passe entre les deux, les transferts par bateau, les transferts transfrontaliers, ça, on n'a pas d'informations.
Voilà, il y a des flux, des mouvements qui sont beaucoup plus importants encore que ce qu'on pourrait imaginer. Peut-être, Baptiste Mont-Saint-Jean, sur cette question, est-ce qu'il y a aussi en ce moment une sorte de diplomatie du déchet qui est en train de se mettre en place? On pense à la Convention de Bâle qui existe déjà depuis un moment sur les déchets dangereux, mais plus globalement, est-ce que des accords sont en train d'être passés?
Alors, des accords à l'échelle internationale, pas à ma connaissance. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une réorganisation du secteur du recyclage dans le sud-est asiatique. Effectivement, la Chine a imposé des taux de pureté dans les gisements de déchets qui étaient importés sur leur territoire tellement élevés qu'on ne peut plus littéralement faire entrer des déchets d'exportation en Chine. Et que une des conséquences directes de cela, ça a été que tout le sous-continent asiatique a été arrosé de ces conteneurs de déchets qui ne pouvaient plus rentrer en Chine. Et de fait, aujourd'hui, on voit un certain nombre de pays, Vietnam, Indonésie, Malaisie, qui médiatisent beaucoup le fait qu'ils renvoient quelques conteneurs. Je dis quelques conteneurs parce que 400 tonnes en Indonésie, au regard des quelques centaines de milliers de tonnes qui sont en jeu, ça semble un peu dérisoire. Mais de fait, c'est aller chercher une aiguille dans une botte de foin, chercher un conteneur de déchets pollués au milieu d'un champ rempli de containers d'exportation. Mmh. Bref, il y a de fait une réorganisation du marché du recyclage et il y a du côté du sud-est asiatique des industriels, là aussi des entrepreneurs qui ont tout intérêt à recevoir eux les déchets sur leur territoire. Et donc il y a comme un paradoxe comme ça, à la fois devoir réguler une forme d'exportation qui ne cesse de se développer, hein. Les flux sont toujours de plus en plus importants, y compris après l'interdiction de l'exportation vers la Chine. Et en même temps, une réalité sociale qui, dans ces pays-là, est liée à une soif de développement et aussi de gestion de ces déchets. Alors, quelle solution apporter à ça? Probablement, essayer de couper le robinet. Et donc, le robinet principal, il est là encore dans les pays occidentaux, dans les pays producteurs, principaux producteurs. Alors, la Chine est bien évidemment productrice, hein, le Vietnam aussi, la Malaisie aussi. Mais de commencer peut-être là où la production est la plus importante aujourd'hui, en réduisant littéralement la production à la source des déchets.
Oui, juste un mot sur ce point, Baptiste Mont-Saint-Jean, en 2013, il y a 6 ans, vous participiez à la première expédition dédiée à l'identification de concentration de débris plastiques. C'était en Atlantique Nord, avec un continent de plastique. C'est ce que vous avez pu aussi constater sur place, des zones géantes d'agglomération de détritus. Vous tirez la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui depuis 6 ans? Est-ce que les choses ont évolué de ce côté-là?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup toujours de cette histoire de continent de plastique. Et j'ai envie de dire, malheureusement, les continents de plastique, ça n'existe pas. On a affaire à des soupes de déchets plastiques, de débris microscopiques de plastique. Et de fait, la question de la dépollution de ces soupes de plastique se pose aujourd'hui et devient une forme de figure impossible, hein. Nettoyer l'océan, ça consisterait à ratisser l'ensemble de la surface océanique avec un filet à plancton. C'est-à-dire ratisser aussi toute forme de vie située à la surface des eaux. Donc il y a de fait une situation dramatique, mais qui est pas nouvelle, là encore, hein, qui est datable au moins depuis les années 70. On sait qu'il y a du plastique en quantité dans les océans depuis une quarantaine d'années. Moi j'ai 36 ans aujourd'hui, on sait cette réalité-là depuis avant même ma naissance. J'ai envie de dire, oui, il y a une sorte d'urgence, et l'urgence, elle est liée aussi effectivement à l'espèce d'abondance de discours à l'endroit de cette situation critique. Mais j'ai envie de dire, passons à l'action.
Et c'est ce constat, ce paradoxe, hein, de nos sociétés, de notre modernité, que vous soulignez aussi, Baptiste Mont-Saint-Jean, de votre livre Homo Detritus, et vous également, Philippe Biwix, avec l'âge du low-tech, mais aussi le bonheur était pour demain. Vous montrez à quel point maintenant toutes ces solutions, ces approches gestionnaires sont insuffisantes et qu'il faut aussi commencer peut-être à changer réellement de paradigme, c'est-à-dire à arrêter de tenter de faire coïncider cette économie de l'hyperconsommation avec l'appauvrissement des ressources. Il y a des grands changements à penser et à mettre en œuvre. Alors, comment faire? Vous pouvez nous donner peut-être quelques pics, Philippe Biwix.
Oui, hein, je vais vous en donner.
Voilà, donnez-nous. Ouais. Comment repenser notamment la durée de vie des produits? Ça commence peut-être par là.
Alors, la question, je voulais rebondir justement sur la question de l'indice de réparabilité, dont on verra ce que ça donne. Alors, moi, je suis toujours très méfiant sur les questions de labellisation ou de choses comme ça, qui, à nouveau, on passe par le geste et l'information du consommateur uniquement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à réparer? Bien sûr, il peut y avoir des questions de compétences et de droits de propriété, des questions d'accès aux pièces détachées, etc. Donc, il y a eu des avancées dans le passé réglementaires sur cette question. Il peut y avoir aussi des questions d'obsolescence programmée. On verra ce que donnent les belles attaques judiciaires qui ont été menées et qui sont menées actuellement par l'association Halte à l'obsolescence programmée. Mais au-delà de ça, il y a une question purement, je dirais, fiscale, de prise en compte des externalités. Quand vous avez votre fer à repasser qui tombe en panne au bout de 2 ans et que vous essayez de le faire réparer, qu'est-ce qu'on va vous dire dans votre magasin? Mais mon bon monsieur, ma bonne dame, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf. Donc, et ça,
achetez-en
pourquoi?
À nouveau.
Exactement. Et pourquoi est-ce que ça se passe? Alors, c'est très bien pour la machine économique, sûrement. Encore que, parce qu'on pourrait se poser la question de l'emploi, des emplois non délocalisables, que peuvent représenter tout le gisement de la réparabilité, mais On fait ça parce que les ressources ne coûtent rien, alors que la main-d'œuvre, elle, évidemment, elle est fiscalisée. On va mettre toutes les contributions sociales dessus. Et pour donner un ordre de grandeur, hein, c'est 450 milliards de contributions sur le travail et quelques milliards à peine sur les taxes environnementales et une cinquantaine sur la partie carburant. Mais donc, si on ne change pas ça, ça restera extrêmement difficile. Je rappelle juste un chiffre. Il y a moins de 2 euros de matières premières dans un smartphone. Un smartphone qui coûte plusieurs centaines d'euros. Donc le reste, c'est du marketing, ce sont des amortissements d'usines, ce sont du développement, etc. Donc qui peut croire que si on ne change pas cette logique-là, si on ne fait pas glisser progressivement la fiscalité du travail quelque part vers les ressources et vers l'énergie et vers le carbone, c'est-à-dire une manière finalement de reprivilégier l'emploi humain et un emploi humain de qualité. Et donc quelque part, il y a une question entre le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de Bercy. Enfin, et donc si on veut vraiment prendre les choses en main, il va falloir être capable de jouer sur des choses comme ça, sur des TVA différenciés, des choses qui sont évidemment moins agréables et plus dangereuses potentiellement pour les gens qui font des simulations économiques, mais ça sera nécessaire. Et puis une deuxième piste, c'est la question du pouvoir d'entraînement possible du pouvoir public à toutes les échelles, que ça soit l'échelle étatique, mais l'échelle régionale, l'échelle des métropoles, l'échelle des communes. Où là, moi, j'ai envie de lancer une idée, c'est-à-dire que ok, allons-y pour cette révolution de la poubelle et du consommateur, mais tout ne passe pas chez le consommateur. Et surfons sur cet engouement du mouvement zéro déchet qui est quand même impressionnant. Et lançons alors dans toutes les écoles, dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises publiques. Un mouvement zéro déchet pour effectivement donner à voir, pour créer des filières, pour que par le pouvoir prescriptif, le pouvoir d'achat, la puissance publique puisse aussi inciter des acteurs économiques à se lancer dans le domaine de la réparation, dans le domaine du zéro déchet, d'en trouver des nouvelles solutions. La question de la consigne avec la bouteille en verre réutilisable, c'est pas une question technologique. On sait nettoyer une bouteille, y a pas de problème. Mais c'est une question organisationnelle, d'organisation entre tous les acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les distributeurs, les transporteurs, les industriels. Et c'est un petit peu plus complexe. Et pour lancer ça, il faut être capable de passer à l'échelle. Et il me semble que la puissance publique pourrait le faire.
Baptiste Mont-Saint-Jean, vos pistes à vous, vous l'évoquiez, cette future loi sur l'économie circulaire, c'est un petit pas, c'est pas encore la grande transition attendue. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour repenser notre société du déchet?
Je souscris complètement à ce qu'a dit Philippe à l'instant. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément de conseils ni de bonnes idées à donner. J'ai le sentiment que l'enjeu se situe aussi sur le plan des imaginaires, sur le plan des représentations. Qu'on a grandi, on a avancé depuis une trentaine d'années avec cet imaginaire éco-citoyen consistant à dire qu'on pourra maîtriser ces déchets, qu'on pourra les recycler, qu'on pourra en faire quelque chose d'utile. J'ai envie de reprendre cette référence aux chiffonniers qui depuis au moins le 19e siècle mettent les mains dans les déchets littéralement et font monde avec et les refont circuler. Et je pense qu'il y a cet enjeu de la représentation de l'imaginaire de nos restes qui introduit une nouvelle façon de faire monde avec nos déchets. Alors c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais très concrètement, j'ai envie de dire, il s'agit moins de trier ces déchets dans la bonne poubelle que de faire les puces ou d'aller dans les ressourceries, de tâcher de trouver un espace d'existence commun avec ce monde matériel et de voir dans quelle mesure il est possible de faire monde avec lui. Et si c'est pas possible, par exemple avec tel matériau qui est toxique, avec tel plastique qui est invasif, eh ben on décide d'arrêter de le produire, tout simplement.
Voilà, si les chiffonniers, on ne saurait que trop renvoyer vers le très beau livre d'Antoine Compagnon sur ce sujet, sur la figure presque du poète aussi, du chiffonnier. En gros, cette loi, cette future loi, je terminerai avec vous là-dessus, Baptiste Mont-Saint-Jean, cette loi sur l'économie circulaire, elle est assez en phase quand même avec notre époque. Pour l'instant, on en est là, on en est à prendre conscience qu'on a laissé des traces indélébiles de notre présence sur la Terre. On a d'abord enfoui et brûlé plutôt nos déchets, et aujourd'hui, on pense à les réduire, à les recycler, c'est en phase.
C'est en phase. Et c'est aussi probablement lié à un état de fait. On a comme réussi à concrétiser la promesse, la prophétisation de Descartes, vous savez, qui disait que l'homme moderne se rendra peut-être maître et possesseur de la nature. En éparpillant nos déchets partout, en ayant pissé comme le tigre, le chien ou le lion aux quatre coins de la planète, on s'est rendu finalement de facto maître et possesseur de la nature. Ça, c'est Michel Serres qui le disait très bien comme ça. Et peut-être que c'est face à cette situation impossible que nous ne sommes réellement pas maîtres et possesseurs de cette nature, que nous avons aujourd'hui à réinventer un monde.
Voilà, des déchets comme des ombres incommodantes de la civilisation, Philippe Biwix, vous signez.
Mot de conclusion, je dirais que l'économie circulaire et la volonté de mieux recycler, de plus recycler, est évidemment quelque chose qui va dans le bon sens. Mais il est temps que nous prenions conscience que une économie circulaire ne fonctionnera qu'avec de la sobriété, de la frugalité, et qu'il est beaucoup, beaucoup plus simple de gérer à la source, c'est-à-dire d'éviter de produire, que d'aller ramasser ensuite des microplastiques au milieu des océans.
Voilà, c'est dit, sobriété. Merci beaucoup à vous, Philippe Biwix. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Le bonheur était pour demain, rêverie d'un ingénieur solitaire au pluriel, précédé de l'âge des lots. Tech paru au seuil Baptiste Mont-Saint-Jean, Homo Detritus, une critique de la société du déchet, au seuil aussi, tous deux dans la précieuse collection Anthropocène.